pour finir cette journée, nous allons donc terminer par quelques gourmandises. D'ailleurs, je voudrais juste dire à Christophe Evans que lire, c'est aussi boire et manger. Ce n'est pas qu'oublier. Et qu'effectivement, même si on peut penser que ce sujet est un peu différent de ce que vous avez vu dans la journée aujourd'hui, finalement, il va vous redonner un certain nombre de thèmes qu'on a pu aborder, comme habiter la bibliothèque, comme effectivement la présence des bibliothèques sur les réseaux sociaux et dans des vidéos, mais aussi sur des projets intergénérationnels ou en tout cas d'échanges, qui va donc nous permettre d'être abordé avec ce sujet. Alors, dans un premier temps, évidemment, je tiens encore à remercier l'école, donc l'ENSIB, d'avoir accepté que je traite ce sujet que j'ai présenté moi-même donc au début de l'année dernière. Au départ, en effet, évidemment, pour joindre un peu l'utile et l'agréable, puisque j'aime faire la cuisine et que je suis gourmande, je pensais effectivement pouvoir explorer davantage deux de mes passions. Mais finalement, c'est bien d'autres perspectives qui se sont ouvertes à moi au fur et à mesure de la définition donc, de mon objet d'étude, qui était donc la cuisine, mais aussi du périmètre du sujet. Comme vous pouvez le voir, donc, il a au fur et à mesure de la recherche pris un sous-titre, donc mise en bouche pour une image gourmande des bibliothèques, car finalement, au-delà donc, des réflexions que j'ai pu mener au cours de ce mémoire, j'ai surtout voulu écrire un plaidoyer pour que chacun d'entre nous participe à rendre davantage de monde gourmand de bibliothèques. Effectivement, en fait, très rapidement, hein, j'ai essayé de définir les liens qui pouvaient unir la cuisine et la bibliothèque, et j'ai été particulièrement surprise de voir autant d'analogies significatives entre ces deux lieux, qu'ils soient donc des lieux de ressources, des lieux de savoir-faire, des lieux de transmission, des lieux d'échange, des lieux de passage, des lieux de rencontre, des lieux d'expérimentation, donc un trait d'union entre tradition et innovation, entre passé et présent, en territoire local, national et international. Finalement, beaucoup de points communs sont apparus au fur et à mesure de la définition de cet objet d'étude. J'ai donc en fait choisi de traiter ce sujet en voyant donc la cuisine comme un prisme qui m'a permis en fait d'aborder plusieurs problématiques et interrogations actuelles des bibliothèques en termes de conquête de public, mais aussi de légitimation de son rôle social, de revalorisation de son image, mais aussi donc de rapprocher des publics éloignés de l'écrit. Finalement, j'ai pensé l'ensemble donc de ce mémoire pour mener des réflexions sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en bibliothèque, de la visibilité des définitions et des extensions des collections, de la complémentarité des supports des savoirs, des ménations, des partenariats ou des actions hors les murs. Donc je vais vous présenter maintenant un petit peu donc, les réflexions qui sont apparues au cours de cette recherche. Avec dans un premier temps donc, une réflexion sur le statut de la cuisine en bibliothèque, et sur effectivement donc cette interrogation un petit peu provocatrice sur est-ce que la cuisine a une place légitime et reconnue en bibliothèque. Est-ce qu'on pouvait toujours, ou est-ce qu'on peut penser que c'est un mauvais genre qui ne serait pas assez noble culturellement par exemple? Est-ce que effectivement les bibliothécaires dans leur culture professionnelle divisent encore le monde entre le monde du ventre et le monde de l'esprit? Et donc effectivement, est-ce que la cuisine pouvait entrer pleinement donc dans les bibliothèques? Finalement, hein, plusieurs réflexions sont venues aussi ajouter d'autres d'autres arguments, puisque évidemment, et moi sans doute la première, je me retournais spécifiquement vers Internet quand je cherche une recette de cuisine, mais aussi car je n'ai, je le tiens à l'avouer, jamais emprunté de livre de cuisine en bibliothèque. Donc effectivement, je m'interrogeais sur les logiques d'usage des collections et sur leur définition. Cette définition des collections m'a amenée en fait à aller jusqu'à imaginer une bibliothèque qui ne parlerait que de cuisine. Puisque effectivement, quand on commence à essayer de définir ce que peut être la cuisine aujourd'hui, eh bien, on est très embarrassé, hein, parce que d'abord, le livre de cuisine aujourd'hui est loin d'être un simple recueil de recettes. Aujourd'hui, on peut donc acheter des livres de cuisine qui sont finalement uniquement des livres d'art, hein, ou des livres de design, mais où il n'y a plus aucune technique, aucune recette. On peut aussi acheter des bandes dessinées de cuisine ou des romans noirs culinaires. Effectivement, la cuisine a largement changé du moins en tout cas échappe maintenant très largement à son classement en pratique, d'autant plus que si on veut véritablement définir ce qu'est une collection de cuisine, on pourrait évidemment y ajouter tous les ouvrages sur les régimes alimentaires, sur les allergies alimentaires, sur le véganisme, le végétalisme, sur la biodiversité, le développement durable, le militantisme écologique, mais aussi tout ce qui correspond donc à la culture du potager ou la sécurité alimentaire. Donc évidemment, les domaines deviennent de plus en plus vastes quand on parle de cuisine, et c'est d'autant plus délicat aujourd'hui de faire des choix documentaires dans cette matière que l'augmentation des nouveautés en termes de cuisine dans le monde de l'édition est de 5% par an, ce qui rend effectivement quasiment impossible toute exhaustivité, en tout cas en termes de nouveautés, parlant de cuisine en bibliothèque. Et puis évidemment, j'ai aussi voulu inclure dans cette réflexion sur les collections tout ce qui correspondait aux recherches scientifiques en matière de cuisine, qui effectivement, depuis Claude Lévi-Strauss, est un véritable domaine des sciences sociales, et de voir aussi la place qui est accordée aux périodiques de cuisine, mais aussi on pourrait aller jusqu'aux DVD et de s'interroger sur leur place à côté ou non des ouvrages de cuisine. Donc évidemment, j'en suis arrivée à une conclusion que ces collections devaient largement être co-construites avec les usagers, qu'elles devaient privilégier un certain nombre de règles, en particulier celui du facing, par exemple, puisque en termes de cuisine, souvent les titres sont plus importants que les auteurs, mais aussi sur une extension possible de ces collections. Pourquoi ne pas envisager, évidemment, comme le font d'ailleurs le monde de l'édition, des moules à gâteaux en prêt à côté de livres sur la pâtisserie ? Donc pourquoi effectivement ne pas étendre la cuisine à un prêt d'ustensiles de cuisine ? Mais aussi, pourquoi ne pas emprunter donc des living books ou des human books, donc ces amateurs ou ces spécialistes de telle ou telle cuisine du monde, par exemple, qui pourraient venir effectivement être empruntables à la bibliothèque pour une heure ou deux et permettraient à tout un chacun effectivement de s'améliorer ou de connaître un certain nombre d'autres manières de cuisiner. Et puis, effectivement, tout un environnement qui pourrait être un véritable engagement, cette fois-ci militant, des bibliothèques, en termes, cette fois-ci, de jardins partagés, de potagers, de ruches, de distribution de paniers de légumes ou, évidemment, de grainothèques qui, aujourd'hui, se multiplient dans les bibliothèques. Donc effectivement, l'ensemble de cette première interrogation m'a amené évidemment dans un second temps à se demander si l'expérience du goût était tolérée en bibliothèque. Parce qu'effectivement, hein, et d'ailleurs, j'ai donc mis une interrogation aussi cette fois-ci assez provocatrice, donc sur l'interdit de manger et de boire en bibliothèque. Alors, j'ai très vite en fait balayé cette question de l'interdit qui, même si elle perdure en particulier dans nos bibliothèques françaises, eh bien, recule très largement. D'abord avec l'apparition des troisièmes lieux, mais aussi avec tout ce qui est zoning donc des espaces dans les différentes bibliothèques, mais surtout plus généralement avec l'idée qu'il y a de moins en moins de sacralisation de l'objet livre, ce qui effectivement permet eh bien, de manger et de boire. Surtout que finalement, eh bien, ces collections de cuisine sont toutes majoritairement empruntables, hein, quelques exceptions près dans les bibliothèques patrimoniales, évidemment. Eh bien, loin des yeux des bibliothécaires, eh bien, ces ouvrages de cuisine sont sans doute malmenés. Donc, effectivement, je me suis dit que cet interdit était sans doute à terme en train de disparaître. Et puis, surtout, un grand étonnement pour moi au terme de ma recherche, c'est qu'en fait, il est certes interdit de manger en bibliothèque, mais il est largement... les bibliothécaires invitent largement leurs usagers à boire et à manger à certaines occasions, donc qu'ils soient des clubs de lecture ou des animations en bibliothèque. Donc finalement, il est interdit de manger et de boire, mais c'est possible avec les bibliothécaires. Donc, d'ailleurs, ça interroge évidemment chacun d'entre vous sur votre gourmandise, qui j'espère donc vous incitera à multiplier ces événements autour donc de la nourriture. On peut d'ailleurs aussi, hein, dans cet interdit, se demander si ce n'est pas la junk food, hein, plus généralement, donc les fast-food et autres sodas qui sont interdits en bibliothèque, car quand on regarde tous les programmes donc, d'animation en bibliothèque, quand il s'agit de gâteaux, de bonbons, de thé ou de café, là, il y a généralement beaucoup moins de problèmes que pour emmener un hamburger à la bibliothèque. Donc... pour terminer effectivement sur ces interrogations, j'ai aussi voulu savoir s'il était possible de faire la cuisine en bibliothèque. En fait, en développant la définition du sujet et l'analogie entre cuisine et bibliothèque, le dernier blocage que j'avais donc rencontré et la limite des comparaisons possibles entre ces deux espaces, c'était bien le fait de faire la cuisine. Parce qu'évidemment, hein, la bibliothèque, elle tente au maximum, hein, évidemment, de se prémunir de tous les incidents qui sont souvent provoqués, hein, en cuisine en termes de projection et autres départs d'incendie. Et donc, je pensais qu'effectivement, il était quasiment inenvisageable de faire la cuisine en bibliothèque. Finalement, à plusieurs niveaux, j'ai vu que c'était de plus en plus possible. D'abord parce que, et ça, on a tendance à l'oublier, eh bien, le personnel des bibliothèques ont souvent une cuisine dans leur bibliothèque. Donc, eux-mêmes font la cuisine dans leur bibliothèque, dans cet espace, qui, cet espace sert de temps en temps aussi à améliorer l'accueil du public. C'est le cas, par exemple, à la bibliothèque Louise Michel, où le thé à la menthe est préparé dans la bibliothèque du personnel, pour être ensuite donc proposé aux usagers qui rentrent dans la bibliothèque. Donc on voit bien qu'en fait, il existe déjà des cuisines en bibliothèque qui pourraient, ou en tout cas peuvent être utilisées dans des actions de médiation. Ensuite, effectivement, hein, donc cette cuisine du personnel qui peut être un trait d'union, c'est aussi possible de faire de la cuisine sans cuisine. J'ai pu donc, par exemple, au cours de la recherche, de ma recherche, trouver des ateliers de création de maisons d'Ansel et Gretel avec des gâteaux secs et des pâtes à tartiner qui n'exigeaient pas beaucoup plus que effectivement une grande table et sans doute un balai, une petite balayette pour la fin de journée. En tout cas, il est possible aussi de faire la cuisine sans cuisine en bibliothèque. Et puis surtout, j'ai découvert plusieurs projets où aujourd'hui donc la cuisine entre pleinement en tant qu'espace dans les bibliothèques. Donc c'est un autre choix en fait qui n'est pas celui des Fab Labs ou des Maker Labs, des Maker Space, mais qui va aussi faire le pari de renouveler l'image, de rapprocher les publics éloignés de l'écrit, de créer de l'échange, de créer de l'innovation, de créer de la convivialité. Alors, ces bibliothèques qui ont fait le choix d'introduire un espace cuisine dans leur bibliothèque, c'est la médiathèque Estaminet de Grenay, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui, elle, a fait le choix d'une cuisine très familiale, qui propose beaucoup d'ateliers cuisine en partenariat avec le monde économique local, qui propose aussi dans sur son comptoir de pré-retour de boire une bière, une page 24, donc un nom particulièrement évocateur, ou un café, mais qui effectivement conçoivent beaucoup d'ateliers et de médiation pour faire en fait de cette cuisine un des points d'entrée, une des clés d'entrée facilitateur vers le monde de l'écrit. C'est le cas aussi de la bibliothèque del Fondo, donc en Catalogne, qui cette fois-ci a fait un choix beaucoup plus professionnalisant, moins familial, mais qui est largement tourné vers l'insertion sociale, donc un espace très intéressant dans une banlieue donc, de Barcelone pour cette fois-ci plutôt répondre à des questions de formation professionnelle. Et puis la Culinary Literacy Center de Philadelphie qui appartient à la bibliothèque publique de Philadelphie. Cette bibliothèque publique en fait cherchait à créer un lieu qui pourrait mettre tous les usagers et tous les fréquentants et fréquentants sur un pied d'égalité et qui pourrait être un levier d'intégration sociale. Et ils ont décidé en fait de créer un centre entièrement tourné vers la cuisine. Simplement, ce centre est en fait plutôt un learning center. Alors certes, tout est autour de la cuisine, mais dans cet espace donc, de la bibliothèque publique de Philadelphie, en fait, on apprend aussi bien la chimie que l'anglais, langue étrangère, que les mathématiques, que la photographie ou, par exemple, les métiers de boucherie. Donc, vous voyez qu'en fait, l'éventail est très large et ne cantonne pas la cuisine à un simple savoir-faire de la cuisine, mais va bien au-delà, en fait, et prend la cuisine comme un élément permettant de rapprocher tous donc sur un même pied d'égalité. Donc au terme donc effectivement de l'ensemble de ces réflexions, il m'a paru donc essentiel de mesurer l'appétit de tous pour la cuisine et en particulier la cuisine en bibliothèque. Alors en France, mais c'est un phénomène qui va au-delà de la France, la cuisine est aujourd'hui un phénomène culturel qui est au-delà d'un phénomène de mode. Alors certes, aujourd'hui, on est dans une véritable saturation, en particulier audiovisuelle, des émissions de cuisine, mais de façon plus Bon, sur un temps plus long, on constate que ces émissions de cuisine sont constantes, par exemple sur la télévision française depuis les années 50, sont toujours l'objet d'une grande starification des présentateurs de ces émissions de cuisine. Et donc, à chaque époque, on a pu constater des mouvements déjà donc, de mode de la cuisine. Simplement, aujourd'hui, on voit qu'on est allé bien au-delà de cet impératif biologique pour arriver à des pratiques amateurs, mais aussi à une patrimonialisation. C'est évidemment une des grandes questions de mon mémoire et c'est une des raisons aussi qui a motivé mon sujet, c'était de connaître la place accordée et puis la place prise aussi par les bibliothèques dans la valorisation du repas gastronomique des Français qui a donc été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010. Donc à différents titres, je me suis aperçue que la cuisine pouvait aussi renferme une très grande richesse culturelle à tout point de vue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme on l'a pu le voir tout à l'heure avec Monsieur Guy, qui a été aussi un des premiers à dire que les Français reconnaissent très largement, à plus de 33%, que la cuisine est un élément indispensable de la culture française. Donc, on est effectivement dans une définition très large aujourd'hui de la cuisine en France, qui n'est plus cette occupation quotidienne liée à une nécessité. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, les statisticiens, et peut-être encore un peu les bibliothécaires aussi, considèrent encore trop la cuisine comme une obligation et non pas comme une pratique amateur, à la différence de la photographie ou de la musique, par exemple, alors même qu'il existe maintenant une fédération française d'amateurs de cuisine en France depuis 2007. Voilà. Alors, en ce qui concerne les bibliothèques, plusieurs interrogations ont parcouru mon mémoire. D'abord, sur le fait que, évidemment, c'est Internet qui vient en première réponse quand il s'agit de trouver une information en matière de cuisine et qu'on interroge les Français. C'est donc Internet qui arrive à près de 30%, du moins 26%, comme réponse première et principale. La bibliothèque arrive cependant en second comme lieu de ressources identifiées pour la cuisine. Simplement, quand on regarde un petit peu plus donc, ces chiffres, on se rend compte que ces personnes qui placent Internet et la bibliothèque au premier et deuxième rang donc, de leur lieu de ressources, ce sont des personnes qui sont à la fois inscrites et usagées en bibliothèque. Plus on ira donc vers des publics éloignés de la bibliothèque et plus en fait la bibliothèque, mais même Internet, sera un des derniers recours. Ainsi donc, pour ce qui concerne les personnes donc non usagées et non inscrites à la bibliothèque, ce sont les hypermarchés qui constituent le premier lieu de ressources identifiées en matière de cuisine. La bibliothèque arrivant en dernière position. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour effectivement permettre l'identification des bibliothèques comme lieu de ressources importants pour les questions de vie pratique et en particulier ceux de la cuisine. Cependant, la cuisine est un succès. Donc pour les bibliothèques, on n'en a jamais assez, les taux de rotation sont très importants, on remarque un succès considérable des expositions sur la cuisine, des ateliers qui sont pleins en quelques secondes, des conférences, des médiations, donc on a une vaste possibilité en cuisine, pour les bibliothèques en cuisine. Donc simplement, il faudrait, et ça c'est un des manques, mais j'ouvre là le champ des possibles, de confirmer effectivement auprès du public, hein, avec une enquête un peu plus approfondie, toutes ces réflexions sur ce succès donc, de la cuisine en bibliothèque. Alors, pour terminer, effectivement, sur quelques conclusions, évidemment, hein, la recette du succès, c'est donc une belle idée, une bonne dose de partenariat, un soupçon d'aventure, beaucoup de liberté, un peu d'argent, une envie de travailler ensemble, quelques kilos de souplesse au travail, des tonnes de convivialité, un doigt d'humour, une bonne louche de patience, faire mijoter à feu doux, distribuer, transmettre, échanger et multiplier. C'est évidemment eh bien, une recette qui est applicable pour bien d'autres secteurs des bibliothèques et la cuisine, en fait, finalement, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que l'on pourrait donc rêver pour les bibliothèques. Alors, ce que j'ai pu quand même constater pour les bonnes recettes, c'est qu'effectivement, en bibliothèque universitaire, on voit une introduction de plus en plus importante de la nourriture, avec en particulier les espaces de cafétéria, hein, qui sont de plus en plus importants et conviviaux, mais on pourrait parler aussi des espaces de sieste hein, qui viennent d'ouvrir à la bibliothèque universitaire de Saint-Étienne. On a évidemment aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites pour améliorer le quotidien de ces étudiants qui sont souvent pour la première fois confrontés à la nécessité de se faire à manger. Des moments, et puis aussi de créer des moments conviviaux pour se rencontrer, hein. Donc des soupes cinéma, par exemple, qui sont organisées à la Bibliothèque Université de la Côte d'Opale, des concours, des ateliers sur l'autonomie alimentaire, par exemple, des expositions, comme à la Bibliothèque Universitaire de Lyon 1, autour donc, du manga et de la cuisine, mais aussi de valorisation des collections, et d'accueil, et en termes d'accueil, comme à la Bibliothèque universitaire d'Angers, de nouveau, hein, qui a proposé une très belle table de fête pour valoriser ses collections de cuisine pendant les fêtes de Noël, et proposé à l'accueil de la bibliothèque du thé de Noël, comme donc premier entrée vers la bibliothèque. Donc de très nombreuses initiatives, effectivement, sont réalisées aussi bien en bibliothèque universitaire, en bibliothèque patrimoniale. Alors pour ce qui concerne effectivement les bibliothèques patrimoniales, et là donc je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la bibliothèque municipale de Dijon à l'honneur, qui comme vous le voyez propose généralement une fois dans l'année un magnifique banquet dans ses salles patrimoniales. Donc là il s'agissait d'un repas malgache, mais l'année dernière elle a organisé un banquet Harry Potter particulièrement réussi. En partenariat avec une école hôtelière, mais aussi avec le théâtre de Dijon qui avait permis de créer un magnifique ciel étoilé qui rajoutait évidemment au décor. Donc, ce qui m'a paru intéressant effectivement pour les bibliothèques patrimoniales aujourd'hui en termes de cuisine, c'était de créer un réseau. Et créer un réseau en particulier autour de la bibliothèque municipale de Dijon, qui, depuis qu'elle a été donc pôle associé de la BNF pour les questions de gastronomie et d'œnologie, a une collection extrêmement importante et intéressante pour tous donc autour de la cuisine, mais aussi engager beaucoup de valorisation de ces collections, comme vous voyez avec ces banquets, mais aussi par exemple avec le blog Happy Apicius, que vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux. Cette bibliothèque municipale de Dijon devrait, d'après donc, ce que j'ai pu voir à travers de mon mémoire, se rapprocher de l'Association des bibliothèques gourmandes, qui ont été créées en 1991, mais qui ont connu quelques difficultés ces dernières années et qui souhaitent d'ailleurs renouveler hein, ses adhérents. Donc n'hésitez pas effectivement à vous intéresser à cette association donc, des bibliothèques gourmandes, à sa revue Papille qui a une ligne éditoriale particulièrement originale aujourd'hui dans le panorama panorama des périodiques en matière de cuisine, donc véritablement à valoriser en bibliothèque, mais aussi évidemment à rattacher tout cela avec les cités de la gastronomie qui sont en train d'être mises en place et qui vont progressivement ouvrir à partir de l'année prochaine, donc à Lyon, à Tours, à Paris-Rungis et à Dijon, évidemment. Donc, ces quatre cités de la gastronomie qui ont chacune une spécificité devraient effectivement entrer aussi davantage dans ce réseau des bibliothèques patrimoniales françaises très riches en matière de cuisine, dont je propose aussi un panorama dans mon mémoire. Il ne faut pas non plus oublier l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de Tours, l'IEHCA, qui lui aussi propose des éditions particulièrement intéressantes et va être rattaché à la cité gastronomique de Tours en proposant à la fois une bibliothèque donc, de sciences sociales sur l'alimentation et qui devrait aussi proposer à l'intérieur de cette cité de la gastronomie une médiathèque gourmande. Donc tous les rêves de bibliothèque totale de cuisine sont donc possibles, sans doute peut-être à Tours. Ce réseau évidemment devrait aussi reprendre le premier projet de l'association des bibliothèques gourmandes initié par Monsieur Gattegno, à savoir l'inventaire donc des fonds gastronomiques des bibliothèques françaises, mais aussi on peut rêver aujourd'hui à une bibliothèque numérique qui valoriserait effectivement tout ce patrimoine culinaire français. J'appelle aussi, à travers ce mémoire, à une collecte de carnets ou de livres de cuisine familiaux. Ces livres qui sont annotés, qui sont généralement éclaboussés, tachés, qui peuvent avoir été aussi complétés par des bouts de papier, par des découpages dans des magazines, etc. Et qui sont en tout cas porteurs d'une histoire individuelle et d'une histoire familiale et qui sont, à mon avis, des matériaux très riches pour des recherches en sciences sociales pour les prochaines années. Et évidemment, valoriser ce patrimoine écrit gourmand qui a donc toute sa place et qui est sans doute d'ailleurs la plus à même de répondre à la valorisation du repas gastronomique des Français. Pour donc terminer, en lecture publique, tout est possible. L'auberge espagnole peut être mise en place. Je n'ai pas pu être exhaustive tellement il y avait d'actions de médiation autour de la cuisine en bibliothèque publique. Évidemment, pour ce qui concerne le français langue étrangère, pour le jeune public, pour les cafés littéraires, pour des concours, on a de la cuisine partout. Mais surtout, cette cuisine permet de transformer les rapports entre les usagers et les bibliothécaires. Ce sont des rapports plus horizontaux, ce sont des rapports de facilitateurs, ce sont évidemment des rapports aussi de valorisation de nos usagers ou de nos fréquentants et qui effectivement permet de se rapprocher des cultures des autres et de vivre ensemble. Il est juste à souligner tout de même qu'il serait souhaitable de se rapprocher des apprentis et des lycées professionnels pour essayer effectivement en bibliothèque de valoriser les savoirs techniques, donc aussi bien que les savoirs intellectuels. Donc, comme dans d'autres segments documentaires de bibliothèque, comme d'autres fonds en bibliothèque, ceux de la cuisine donc répondent à de véritables besoins documentaires de la population. On peut quand même penser que la bibliothèque pourrait être davantage identifiée comme un centre de ressources, surtout au vu des passions culinaires des Français et des enjeux économiques aussi et professionnels qu'elle représente dans notre pays. Donc cette identification passerait par un meilleur signalement, une meilleure visibilité en tout cas des collections, une mise en valeur des espaces, dans les espaces de ces collections, mais aussi donc d'un dynamisme d'un réseau, de la mise en place de partenariats, afin donc de permettre à ce que les bibliothèques deviennent de véritables lieux de vie, des centres culturels et des lieux phares pour leur collectivité. Je finirai donc évidemment par cette magnifique citation de Proust qui nous dit, évidemment, « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sous leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. » Donc n'oubliez pas qu'effectivement, la cuisine et la gourmandise permet de créer ce souvenir. Merci.
Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce bel éveil des sens, original et vivifiant. Peut-être que vous avez quelques questions. Alors, je vais prendre la question devant, j'en vois une au fond.
Bonjour. Donc Anne-Sophie Lambert, vous avez l'air d'être pourvoyeuse de très bonnes recettes. Donc auriez-vous dans vos tiroirs une recette ou peut-être un filtre pour convaincre certains élus, parfois récalcitrants, de la pertinence de cours de cuisine dans une bibliothèque et le rapport avec la lecture publique ? Merci.
Alors j'avouerai qu'effectivement ça a l'air d'être beaucoup plus simple aux États-Unis où Michelle Obama a fait une très grande campagne contre l'obésité et la malbouffe en règle générale, ce qui effectivement j'ai pu constater pour la bibliothèque publique de Philadelphie. Eh bien, il y a de très nombreux soutiens politiques, hein, puisqu'il s'agit de santé publique aussi. Plus généralement, effectivement, c'est aussi, ça permet de valoriser des populations qui le sont généralement peu ou pas, et permet effectivement de rendre chacun porteur d'un savoir qu'il ne le sait pas forcément. Donc, je pense qu'en termes, peut-être... alors. C'est pas anodin, je pense que la médiathèque Estaminet se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Je pense qu'il y a aussi là un certain nombre d'exigences de santé publique qui se jouaient aussi en élaborant ce programme de médiation d'équilibre alimentaire. Je pense, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons qui... Bon, c'est aussi l'analphabétisme du Nord-Pas-de-Calais qui a fait aussi cette multiplication de clés d'entrée à la médiathèque Estaminet de Grenay. Je pense qu'effectivement on pourrait rapprocher ce discours politique à la fois de lutte contre l'analphabétisme, le problème effectivement des publics éloignés de la culture, mais aussi de la santé publique et de l'éducation à la nutrition, qui pourrait être un élément peut-être pour convaincre vos tutelles. Peut-être. Si vous êtes dans le sud, la diète méditerranéenne, ça sera peut-être plus difficile.
Oui, il y a un aspect que vous avez assez peu évoqué, car on a l'habitude de parler de surinformation lorsqu'on parle du web. En l'occurrence, on pourrait parler d'infobésité. Effectivement, s'il y a bien un domaine qui fait que le bibliothécaire doit jouer son rôle de diététicien de l'information, pour filer la métaphore, c'est bien ce domaine de la cuisine, de la bouche. Et il se trouve qu'en France, on a une blogosphère qui est de très grande qualité. Et je pense que les bibliothécaires doivent jouer leur rôle de recommandation, leur rôle de filtre, pour proposer non seulement des citothèques qui soient pertinentes et vivantes, mais également des collections hybrides. Hein. Ça veut dire donc effectivement faire appel à des moteurs d'indexation via le CMS, qui va permettre d'hybrider les collections et pas seulement proposer des périodiques, des ouvrages physiques, matériels, tout mais aussi fait. Des blogs, parce qu'il y a vraiment des blogs de très grande qualité. Et je terminerai par accompagner la citation de Proust par celle de Talleyrand, qui me semble à propos en ces jours d'élection. En France, les régimes passent, la cuisine reste.
Tout à fait. Alors oui, j'ai fait un petit peu rapide sur ma présentation. Si vous lisez mon mémoire, il y a beaucoup de choses effectivement sur Internet et sur l'analyse du phénomène de la cuisine sur Internet. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude de la blogosphère, c'est que, à la différence de l'ensemble de la blogosphère française, la blogosphère culinaire est représentée par une majorité de femmes, alors que ce n'est pas habituel, et une majorité de femmes entre 35 et 50 ans, donc potentiellement un public qui vient aussi en bibliothèque et qui a un grand besoin de documentation en matière de cuisine. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire effectivement vis-à-vis des blogueurs, à valoriser aussi. J'ai parlé aussi dans mon mémoire de tutothèques, comme peuvent le faire la bibliothèque Louise Michel, qui propose des tutothèques et des vidéos autour de la fabrication de maquis. Je l'ai vu aussi pour une bibliothèque patrimoniale au Canada qui fait une chaîne YouTube autour de recettes de cuisine des pionniers canadiens. Et puis on pourrait aussi parler d'Internet en règle générale et pourquoi les bibliothécaires devraient l'Internet de culinaire devrait s'y intéresser. C'est que en ce qui concerne les agrégateurs de recettes, les fautes d'orthographe sont presque encouragées en ce qui concerne la panna cotta, par exemple, pour pouvoir remonter là, très largement dans les réponses des navigateurs. Donc, les bibliothécaires ne peuvent évidemment tolérer ce genre de mode de fonctionnement. Donc, effectivement, il y a beaucoup à faire en matière d'Internet et de cuisine. Je finirai juste par parler de Gallica, qui a sur son site de Gallica Note référencie un blog CC Cuisine qui prend appui sur les recettes numérisées et présentes sur Gallica pour faire son blog de cuisine.
Oui, moi je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention et puis je suis Marianne Kugler de la médiathèque Anne Fontaine d'Antony. Nous sommes de grandes gourmandes par tradition dans cette médiathèque depuis plus de 27 ans que j'y travaille. Et récemment, nous avons fait un dîner dans le noir dans le cadre de la Biennale du handicap. Et ça a vraiment été une expérience extraordinaire. Et je n'imaginais pas quelles allaient être les réactions du public et comment la convivialité allait être tellement évidente en quelques minutes à travers ce dîner. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a aussi travaillé avec le lycée Théodore Monod sur la cuisine moléculaire. Et vraiment, il y a énormément d'actions à pouvoir mener. Et je pense effectivement que ça rapproche beaucoup les bibliothécaires des usagers.
C'est vrai qu'en termes de sensibilisation au handicap, cette expérience est très intéressante. Donc aussi, et puis, comme j'ai pu vous le dire pour Philadelphie, effectivement, aujourd'hui, on peut tout apprendre grâce à la cuisine, en fait, finalement.
Pardon, merci, j'ai entendu la remarque que je ne suis pas sûre qu'il y ait des statisticiens qui aient travaillé sur la cuisine et les bibliothèques. Juste pour info et faire le lien avec la conférence d'avant, il y a un travail de big data et de data mining qui a été fait sur les blogs de cuisine, je ne sais pas si c'est connu, qui montre justement des formes de valorisation algorithmique ou non algorithmique des blogueurs et donc les mécanismes de recommandation qui s'établissent dans ce monde du web, ce qui est une approche moins ludique que ce que vous avez pu proposer, mais qui néanmoins existe. Voilà.
Mais effectivement, en termes d'habiter la bibliothèque, comme on a pu l'entendre au début, les vidéos, les réseaux sociaux, les big data, même les archives, hein, parce que évidemment, les archives aussi de grands gourmands ou de grands chefs peuvent entrer aussi en bibliothèque. Finalement, la cuisine peut être partout, jusqu'à rêver de cette bibliothèque totale de cuisine. Et qui pourrait être celle du bricolage aussi.
Oui, je voulais juste faire une remarque très générale. Pour avoir travaillé sur le même sujet, comme vous le savez, il y a une quinzaine d'années, votre travail montre que la cuisine est vraiment un des meilleurs révélateurs sur les évolutions des bibliothèques depuis 15 ans et sur ce qui reste à faire. Et de ce point de vue-là, vous avez vraiment fait un travail magnifique sur ce côté exemplaire de la cuisine.
Merci beaucoup. J'avouerai que votre travail m'a été extrêmement utile pour construire mon mémoire. Je vous remercie encore.
On peut peut-être s'autoriser une dernière question. Peut-être s'il y a des remords sur les interventions de ce matin, Agnès Viguet-Camus peut répondre peut-être à une question sur les bibliothèques et la transition numérique éventuellement. Non, pas de remarques conclusives. Alors dans ce cas, je vais passer la parole à André-Pierre Sirène de l'ENSIB pour clôturer notre journée.
Je sais pas, Christophe ou Annie, si elle, comme on était deux organisés. Annie, tu pour le mot d'adieu. Donc pour vous remercier très brièvement, on ne doit pas vous retenir, ou Christophe, oui, mais l'un ou l'autre, c'est une... pour vous remercier d'abord vous, l'auditoire, de cette journée, de votre participation. Remercier bien sûr tous les intervenants nombreux, dans des formats différents, exposés à voix multiples, parfois un peu contraintes ou plus longs. Remercier les organisateurs, donc, dont Christophe Evans, là, et mes collègues Christelle Petit et Julia Morino, qui ont concouru à cuisiner cette journée. Alors, il ne nous revient pas de faire une conclusion au sens propre, mais effectivement, en filant la métaphore, on pourrait y arriver assez bien. Le plat était goulayant, on a fini par des issues de table tout à fait appétissantes. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que malgré la diversité apparente des sujets entre le data mining et la cuisine en bibliothèque, on a une nouvelle démonstration de la fameuse phrase de Certeau sur la culture comme prolifération dans des espaces contraints. Et là, on a eu des espaces extrêmement contraints dans des formes très diverses. Et notre art et notre métier de bibliothécaire, c'est de savoir de quelles contraintes nous devons apprendre à jouer ou à nous jouer pour arriver à des résultats qui, tous, in fine, on le voyait même dans l'exposé d'Anne-Sophie, convergeaient vers que font les pratiques des non-praticiens, en quelque sorte. Et malgré tout, il y a cette musique de fond qui reste là, dont je me félicite beaucoup de la collaboration que la BPI et l'ENSIB entretiennent, et on se retrouve normalement l'année prochaine pour la continuation.
Tout à fait, pas mieux. Hein. Moi, je tiens à remercier, alors je me tourne vers la tribune, mais elle est vide, tous les intervenants qui se sont succédés, qui ont accepté de jouer le jeu, qui parfois se sont vus privés de micro et de temps de débat, d'Internet également. Alors, ceci pour préciser une petite chose, hein, c'est que cette journée d'études fait l'objet d'une captation. Donc elle sera disponible sous peu dans les archives sonores de la BPI. L'ENSIB fait un lien traditionnellement, donc vous retrouverez tout ça. Et vous pourrez retrouver bien évidemment les PowerPoints qui ont été montrés et activer les liens qui n'ont pas pu l'être. Donc vous retrouverez l'information. Voilà, puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Vous aurez un nouveau patchwork des actualités de la recherche dans les bibliothèques, et il s'en passe des choses. Voilà. À très bientôt, merci encore à tous.